Notre traversée du pays promis continue, notre arrivée dans le pays promis continue. Nous avançons petit à petit, ça va, vous arrivez à vous repérer sur la carte. Et aujourd'hui, nous arrivons à Jéricho. Et notre question du jour que vous avez sur votre livret, est-ce que vous êtes prêt à tout pour entrer dans l'héritage que Dieu vous a donné en Christ? Attendez, je vais lever ça parce que Cécile, elle est minuscule. Est-ce que vous êtes prêt à tout pour entrer dans l'héritage que Dieu vous a donné en Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? Logiquement, votre réponse à la question va dépendre d'une autre question. À quel degré est-ce que vous réalisez le privilège incroyable que vous avez en Christ? À quel degré est-ce que vous réalisez le privilège incroyable que vous avez en Christ? Est-ce que vraiment nous pensons que ce que Jésus a fait pour nous est incroyable? Est-ce que nous nous rendons compte d'à quel point nous sommes privilégiés? Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point, en tant que chrétien, en tant que personne que Jésus a sauvée, vous êtes privilégié? Je pense qu'on le réalise pas vraiment. En fait, je suis sûre, en fait. Parce que si on le comprenait vraiment, complètement, on serait bien plus persévérant et audacieux dans l'annonce de l'évangile auprès de nos proches et auprès de nos connaissances. Mais franchement, souvent, on pense que notre condition n'est pas vraiment meilleure que celle des non-chrétiens. Je me doute même que parfois, vous devez envier certains de vos amis non-chrétiens parce qu'ils sont pas à contre-courant, parce qu'ils ont des relations sexuelles alors qu'ils n'ont pas besoin de s'engager dans le mariage ou je sais quoi d'autre. Et donc des trucs qui vous font dire, des fois, ça a l'air d'être un peu mieux quand même d'être non-chrétien. Les textes qu'on va regarder ce matin nous mettent en face du fait que souvent, la plupart du temps, on ne trouve pas que l'entrée dans le royaume soit la chose la plus importante et la plus précieuse qui soit. Et ces textes le font en nous présentant des personnes prêtes à tout pour faire partie du peuple, parce qu'elles ont compris que c'était un privilège incroyable, que c'était une question de vie ou de mort. Qui sont ces personnes prêtes à tout? On a Rahab d'un côté et les Gabaonites de l'autre côté. On va pas lire les textes, ce serait trop long, mais je vais vous résumer l'histoire de Rahab que vous avez déjà lue, donc ce sera que des rappels, et l'histoire des Gabaonites que vous avez déjà lue, donc ce sera que des rappels. L'histoire de Rahab, vous la trouvez dans Josué 2 et à la fin de Josué 6. Avec Rahab, on fait un petit retour en arrière, ça veut dire on revient avant la traversée qu'on a vue ensemble hier. Il était une fois, avant la traversée, Josué qui envoie combien d'espions à Jéricho? Merci. Josué qui envoie deux espions à Jéricho pour une mission de reconnaissance. Arrivés là-bas, ils vont dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. Mais le roi de Jéricho apprend qu'ils sont là, les pires espions de la terre, je pense qu'on peut le dire. À peine arrivé, le roi apprend qu'ils sont là et envoie des soldats les chercher. Les soldats demandent à Rahab de leur livrer les espions, mais Rahab ment en leur disant « Oui, oui, bien sûr, ils étaient là, mais bon, maintenant, ils sont partis par là-bas. » Les soldats partent dans la direction que Rahab leur a indiquée, puis Rahab rejoint les espions qu'elle avait cachés sur le toit de sa maison. C'était des toits plats, hein, ne vous inquiétez pas, ils étaient dans de bonnes conditions. Sur le toit de leur maison, elle leur dit qu'elle sait que l'Éternel a livré le pays et leur demande de faire preuve de bonté envers elle, envers sa famille, et de leur sauver la vie comme elle vient de leur sauver la vie. Les deux hommes acceptent et lui disent de rester dans sa maison avec toute sa famille quand les armées israélites arriveront, de mettre un cordon rouge à sa fenêtre, ainsi les armées sauront qu'il faut épargner cette maison. L'affaire est conclue, elle envoie les espions se cacher dans les collines pendant 3 jours, jusqu'à ce que les soldats qui ont cherché partout et qui ont rien trouvé, reviennent bredouille à Jéricho. Et là, ils rentrent au camp, racontent tout à Josué et terminent en disant « Certainement, l'Éternel nous livre le pays. » Ça, c'était avant la traversée. Après la traversée, alors que les armées ont fait tomber Jéricho d'une façon pour le moins étonnante, 7 jours de tours, 13 tours en tout, et des trompettes, Josué dit aux espions du chapitre 2 d'aller chez Rahab pour la faire sortir de cette ville maudite qui était en train d'être passée par le fil de l'épée et pour tenir l'engagement qu'ils ont fait auprès d'elle. Ils y vont, ils la récupèrent, elle et toute sa famille. On nous dit que Josué lui laissa la vie sauve avec toute sa famille et le texte termine en disant « Rahab a habité parmi les Israélites jusqu'à aujourd'hui ». Rahab, Deuxième groupe de personnes prêtes à tout, dans un autre style, les Gabaonites. Après avoir pris la ville clé du sud, Jéricho, et la ville clé du nord, Haï, on parlera de ça demain, les Israélites profitent de leur victoire, ils sont peinards dans leur camp, ils sont bien. Et cela nous amène au chapitre 9. La nouvelle des victoires des Israélites se répand dans le pays, et 6 peuples décident de se coaliser pour leur faire la guerre. Mais un peuple, les Gabaonites, décident de sauver leur vie en recourant à la ruse. Ils prennent des vieux habits, déchirés, usés, ils prennent du pain sec et moisi, et ils arrivent, fatigués, au camp de voyageurs épuisés. En fait, ils avaient voyagé juste 3 jours, mais ils font croire qu'ils ont voyagé depuis des mois. Disant qu'ils viennent d'un pays très lointain, qu'ils ont entendu que l'Éternel était le plus fort de tous les dieux, et qu'ils veulent se faire serviteurs de ce dieu, de ce peuple, et conclure une alliance avec lui. Au début, Josué et le peuple d'Israël, ils sont un peu sceptiques. Qu'est-ce qui nous dit que vous mentez pas, déjà, pour commencer? Mais devant les talents d'acteurs évidents des Gabaonites, en touchant leurs vêtements usés, en voyant que le pain, quand même, c'est vrai, il est tout moisi, donc il a l'air de faire longtemps qu'ils sont sortis de chez eux, ils disent « Ok, d'accord », et ils font une alliance avec eux. Mais 3 jours après, les Israélites, en faisant des petites balades dans leur banlieue, apprennent qu'en fait, les mecs sont leurs voisins. Les responsables disent au peuple, on a fait alliance avec eux, on va tenir notre engagement. Et là, le peuple dit, mais non, mais c'est n'importe quoi, il faut les buter, c'est ce qu'a dit Dieu, il faut laisser personne en vie, machin, machin, machin. C'est des méchants païens. Mais les responsables tiennent ferme. Josué est très en colère, quand même. Il va demander aux Gabaonites pourquoi ils ont menti, alors que mentir, c'est mal, et que maintenant, ils seront serviteurs toute leur vie. Les Gabaonites répondent qu'ils savent que l'Éternel leur a livré le pays et qu'ils voulaient à tout prix avoir la vie sauve. Josué empêcha donc le peuple de tuer les Gabaonites, et les Gabaonites devinrent chargés de corvées d'eau et de bois pour le temple. Fonction, nous dit le texte, et c'est comme ça que se termine le texte, qu'ils exercent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'époque de Josué, hein. Enfin, à l'époque où c'est écrit, vous comprenez bien. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ces 2 chapitres ensemble? Parce qu'en fait, ces 2 chapitres sont construits parallèlement avec le chapitre 7 au milieu. Je vais pas avoir le temps de m'attarder sur cette structure qui est passionnante, mais sachez juste que ces 2 chapitres se répondent l'un à l'autre dans la structure générale de Josué. Et quand vous les regardez, vous voyez même, et je vous ai mis le petit tableau sur votre livret, que la structure des 2 histoires est exactement la même. Tout commence par « Oh là là, les nations veulent du mal à Israël. » Jéricho, les habitants de Jéricho veulent du mal à Israël. Les nations coalisées veulent du mal à Israël. Mais, par contre, une personne dans Jéricho, elle, est différente. Et un peuple parmi les peuples coalisés est différent. Il y a à chaque fois un mensonge. Mensonge de Rab, mensonge de Gabaonite, pas à la même personne, mais dans les 2 cas, il y a un mensonge. Dans les 2 cas, il y a une confession. « Nous savons que l'Éternel vous a livré le pays, que Dieu est le plus fort. » Dans les 2 cas, il y a une demande. Nous aimerions bien que vous nous laissiez la vie sauve, s'il vous plaît, messieurs, dames. Dans les 2 cas, il y a un engagement. Oui, d'accord, nous allons vous laisser la vie sauve. Dans les 2 cas, il y a salut. Ils ont failli, donc avec Rab, elle a failli mourir parce que quand même les armées rentrent, mais quelqu'un les sauve. Avec les Gabaonites, le peuple, certains membres du peuple veulent quand même les tuer, mais Josué et les responsables les sauvent. Et la même conclusion à chaque fois. Ils vivent parmi le peuple encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pas juste parce que je voulais gagner du temps que je traite les 2 chapitres ensemble. Il y a une vraie structure qui montre que ce sont 2 histoires qui sont parallèles. Et la question que posent ces textes est la suivante. Comment ces 2 personnes, une personne et deux groupes de personnes en fait, parce que c'est Rab et sa famille, hein, comment ces 2 groupes de personnes qui n'avaient droit à rien, qui devaient mourir, se retrouvent à avoir droit à l'héritage et à être intégrés dans l'héritage? Et la réponse, c'est, elles sont prêtes à tout, même à mentir. Mais qu'est-ce qui fait que cette détermination est récompensée? Il y a 2 choses, la volonté de Dieu, la confession de foi, et le résultat, ce sera la 3e partie, c'est leur inclusion dans l'héritage. La volonté de Dieu, c'est un thème qui est central dans ces 2 chapitres, et si vous êtes des lecteurs attentifs et très portés sur la loi, vous devez être choqués. Vous devez être choqués car il y a dans ces 2 textes des entorses flagrantes au commandement de Dieu. Nos espions, déjà, arrivent dans une ville, premier réflexe, allons nous réfugier dans une maison close. Normal. Alors, il y a des raisons, c'est un lieu de passage, donc c'est facile de se faire discret, c'est souvent quelque chose qui était à cheval sur les murailles. Il y avait plusieurs raisons techniques, mais quand même, fallait oser, quoi. Et l'héroïne de l'histoire, Rahab, c'est une prostituée et sans doute même une mère maquerelle. On nous dit que c'est chez Rahab, ce qui sous-entend qu'elle est la propriétaire de la maison. Donc c'était même sans doute la mère maquerelle, quoi. Il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. Pas mieux chez les Gabaonites, hein. On a des gens qui mentent, allègrement, qui manipulent et qui s'en sortent. Ces deux récits peuvent rendre un tout petit peu confus à notre vision de ce qui est bien et de ce qui est mal. On va essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Mais encore plus grave, dans les deux cas, la loi de l'interdit n'est pas respectée. Tous les habitants devaient être voués à l'interdit, c'est-à-dire tués, c'est ce que Dieu a demandé pour Jéricho, ou chassés de Canaan, c'est ce que Dieu a demandé pour l'ensemble du peuple. C'est ce que Dieu a dit, il leur a dit, noir sur blanc, etc. Et c'est dans ce texte, ces deux ordres ne sont pas respectés. Rahab a la vie sauve, et les Gabaonites ne sont pas chassés du pays. Et pourtant, dans le récit de Rahab, cela est présenté clairement comme une bonne idée de promettre la vie sauve à Rahab. C'est pas reproché aux espions quand ils font leur rapport à Josué. Josué n'est pas dit « Mais non, mais pourquoi vous avez fait ça? Mais vous êtes engagé à sauver la vie d'une personne alors que Dieu a dit qu'il fallait éliminer tout le monde, etc. etc. » Josué est toqué. Il discerne dans ce qu'ont fait les espions la volonté de Dieu. Chez les Gabaonites, c'est un petit peu plus ambigu que ce qu'il paraît. Certes, l'alliance faite avec Israël a été arrachée à un premier degré par la manipulation. Mais depuis quand un engagement pris dans l'ignorance est plus fort qu'un ordre explicite de l'Éternel? Où est-ce que c'est écrit « Les serments que vous vous faites entre humains a plus de valeur que les serments que vous me faites à moi, l'Éternel ?» Et même, c'est clair dans le texte que la décision de Josué de ne pas tuer les Gabaonites alors que le peuple le demande est présentée comme une bonne idée. Ici, on déroge au commandement de Dieu deux fois et cela est clairement présenté comme la volonté de Dieu. Comment est-ce que c'est possible ? Le jugement est juste. Rahab et les Gabaonites méritaient la mort. Ils sont pécheurs, ils ne reconnaissent pas Dieu, etc. Dieu condamne à mort les pécheurs. Mais Dieu est aussi celui qui grâce les pécheurs. Et vous savez quoi? Il préfère gracier que condamner. Exode 34, l'Éternel conserve son amour sur 1000 générations et il punit sur 3 ou 4 générations. Les espions le savent, et c'est pour cela qu'ils ont accepté la demande de Rahab, sans faire une semaine de jeûne et prière pour essayer de savoir ce que Dieu voulait. Et Josué le sait, c'est pour ça qu'il ne reproche rien aux espions quand ils reviennent et qu'il protège la vie des Gabaonites envers et contre tout. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, et l'esprit de la loi, c'est la grâce. Du coup, est-ce que Dieu voulait le mensonge des Gabaonites? Non. Mais est-ce que Dieu voulait que les Gabaonites soient sauvés? Oui. Au verset 23, Josué leur dit qu'à cause de leurs mensonges, ils sont sous la malédiction. Sous la malédiction de devoir être esclaves pour toujours. Moi, à la première lecture, je me suis dit, mais il est débile Josué ou quoi? Comment c'est possible qu'il leur dise, ah mais vous avez menti, maintenant vous serez esclaves pour toujours. Ils ont échappé à la mort. Qu'est-ce qu'ils s'en fichent d'être esclaves pour toujours? Mais en disant cela, et on a d'autres indices dans le texte de Josué, il sous-entend qu'ils auraient pu ne pas mentir. Ils auraient pu faire comme Rahab et juste demander grâce, dire « Nous reconnaissons que votre Dieu est l'Éternel et nous voulons être serviteurs avec vous. » Ils auraient pu demander grâce, reconnaître que l'Éternel est le roi de toute la terre, renoncer à leur Dieu, et ils auraient été inclus dans le royaume sans servitude. D'ailleurs, dans le texte, les coupables, ce sont les Israélites. Ce sont les Israélites qui sont présentés par le narrateur comme les coupables. Ils n'ont pas consulté l'Éternel, ils n'ont pas cherché à discerner ce que l'Éternel voulait, ils ont fait sans lui, ils se sont retrouvés bernés. Discerner l'action de Dieu, c'est ce qu'ont fait les espions. Ils ont vu que Dieu avait travaillé le cœur de Rahab, et ils sont allés dans ce sens. Discerner l'action de Dieu, c'est ce que n'ont pas fait les anciens d'Israël. Ils ont eu une situation devant eux, ils n'ont pas cherché à savoir ce que pensait l'Éternel, alors même qu'ils ont eu des doutes, ils se sont pas posé plus de questions, je sais pas, peut-être parce que réfléchir ça fait mal à la tête. En tout cas, ils se sont arrêtés juste à ce qu'ils ont vu avec leurs yeux. Mais Josué, lui, après coup, a discerné que c'était la volonté de Dieu, a discerné la volonté souveraine de Dieu, même dans l'erreur des anciens. Et il a, envers et contre tout, protégé les Gabaonites. Sauver la vie de Rahab et des Gabaonites, c'était la volonté de Dieu. Sauver la vie des hommes, leur faire du bien sur 1000 générations, c'est la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui permet le salut de Rahab et des Gabaonites et qui n'a pas été le cas pour les autres peuples et les autres personnes autour? C'est ma deuxième partie, la déclaration de foi. Alors que le roi de Jéricho veut tuer les espions, Rahab veut être sauvée. Alors que les peuples de Canaan veulent faire la guerre et exterminer le peuple d'Israël, les Gabaonites veulent la paix. Rahab et les Gabaonites ont entendu le même message que leur entourage. Un peuple venu d'on ne sait où avance à coups de victoires militaires, disant que le Dieu de la terre et du ciel leur ont donné ce pays. Ils entendent le même message, ils arrivent à une conclusion différente. Ils arrivent à cette conclusion qu'il leur faut à tout prix être du côté de ce peuple. Regardons les confessions. La confession de Rahab, vous l'avez au chapitre 2 dans les versets 9 à 11. Elle dit aux deux espions « Je sais que le Seigneur vous a donné le pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous et tous les habitants du pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que le Seigneur a mis à sec devant vous les eaux de la mer des gens lorsque vous êtes sortis d'Égypte et comment vous avez traité les deux rois amorites qui étaient en Transjordanie, Sion et Og, et que vous avez frappé d'anathème. » Pardon, je dois dire Sion, parce qu'il y a un petit... Nous l'avons appris, et notre cœur a fondu. À tous, le souffle manque devant nous, car le Seigneur, votre Dieu, est Dieu dans le ciel, en haut et sur la terre, en bas. Tous les habitants de Jéricho ont les mêmes connaissances, mais Rahab est la seule à en conclure que l'Éternel est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas, sur la terre. La confession des Gabaonites. Première version avec mensonge. 9, verset 11. Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné à cause du renom de l'Éternel ton Dieu. Nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte et comment il a traité les deux rois des Amoréens qui règnent de l'autre côté du Jourdain, Sihon, roi de Heshbon, et Og, roi du Bassan, qui résidaient à Ashtaroth. Puis, versets 24 et 25, la version de confession sans mensonge. Nous avons agi de la sorte parce que on nous a bien informé que l'Éternel ton Dieu a ordonné à son serviteur Moïse de vous donner tout le pays et de vous demander d'exterminer tous ses habitants au fur et à mesure de votre avance. Alors nous avons eu très peur pour notre vie à votre arrivée. C'est pourquoi nous avons agi de la sorte. Nous voici maintenant en ton pouvoir. Traite-nous comme il te semblera bon et juste. Quelle confiance quand même. Tous les Cananéens ont les mêmes connaissances, mais les Gabaonites sont les seuls à conclure que le Dieu d'Israël sera forcément victorieux. Le Dieu d'Israël sera forcément victorieux. La coalition, ça ne sert à rien. Le Dieu d'Israël sera victorieux. Et ainsi, ils sont sauvés par grâce. Parce qu'on pourrait dire, c'est pas de la grâce. Rahab a été sauvée parce qu'elle a sauvé la vie des espions. C'est donnant-donnant. Je sauve la vie des espions en échange, Dieu la sauve. On pourrait aussi dire, les Gabaonites, ils ont été sauvés parce qu'ils ont été intelligents. Ils ont donné un bon mensonge et ils ont manipulé. Mais clairement, dans ce texte, ce qui différencie Rahab et les Gabaonites des autres, ce sont leurs confessions de foi. Vous ne laissez pas avoir par les choses qui frappent le texte et surtout par les choses qui frappent le texte quand on les lit version École du Dimanche où on parle pas très peu de la confession de foi. Ce qui fait que Rahab et les Gabaonites sont sauvés, c'est leur confession de foi. Ce n'est pas le message qui a sauvé les Gabaonites, Dieu ne se laisse pas manipuler. Ce n'est pas le service que Rahab rend qui la sauve, Dieu n'est pas dans un marchandage donnant-donnant. La grâce est gratuite et elle le fait parce qu'on reconnaît que Dieu est le plus fort. Et ce sont ces confessions de foi qui ouvrent l'entrée dans l'héritage. Mais le truc de fou avec ces confessions, c'est qu'elles n'ont pas des conséquences uniquement pour Rahab et les Gabaonites, mais aussi pour le peuple et pour les nations autour. La confession de Rahab, elle fait œuvre de prophétie, de révélation. Quand les espions, à la fin du chapitre 2, racontent à Josué tout ce qui s'est passé avec Rahab, ils terminent par « Le Seigneur nous a donné le pays ». Ce qu'a dit Rahab, c'était comme une confirmation pour eux que le Seigneur leur avait bien donné le pays. Ils le savaient sans doute un peu par la foi, mais ça ajoute comme une parole de prophétie. La confession de Rahab a affermi la foi du peuple. La confession des Gabaonites permet d'accélérer la victoire des Israélites. Le chapitre 10 nous raconte que le roi de Jérusalem prend peur en voyant la reddition de Gabaon, qui était une grande ville et qui était aussi une ville avec une armée puissante. Mais plutôt que de le pousser à la repentance en se disant « peut-être si cette armée puissante a décidé de faire alliance avec eux, peut-être que je devrais me méfier », cette réalité le pousse plutôt à la guerre. Il se met à la tête d'une coalition de tous les rois du sud, 5 rois en tout, et s'en va en guerre. La coalition se fait mettre en déroute par Israël parce que c'était les Gabaonites qui avaient raison. Et Josué prend le pouvoir sur tout le sud du pays en une seule guerre. Une pierre, cinq coups. Une guerre, cinq rois. Et donc ça accélère la victoire du peuple. Et la confession de Gabaonite sert ici de témoignage aux gens qui sont extérieurs au peuple. Dans cette histoire, les rois reçoivent ce témoignage et leur réaction, c'est de s'endurcir. Mais ils auraient pu reconnaître que Dieu est le plus fort et se repentir. À la fin du récit de cette victoire, le texte dit « Ainsi, seuls les Gabaonites ont fait la paix avec Israël et les autres peuples sont endurcis. » Cela nous montre la puissance de notre témoignage, de nos confessions, vous l'avez sans doute vécu aussi dans vos groupes de partage hier soir. Ça a du sens de raconter ce que Dieu fait dans nos vies pour les non-chrétiens, parce que cela peut les amener à Dieu, mais ça a aussi du sens pour les chrétiens. À chaque fois que quelqu'un déclare sa foi, à chaque fois que quelqu'un raconte son histoire, il affermit la foi des chrétiens qui l'écoutent. À l'image des espions, les chrétiens peuvent dire « Le Seigneur est vraiment puissant, le Seigneur est vraiment incroyable, ses promesses sont vraiment réelles, j'ai entendu le témoignage de telle ou telle personne et je vois vraiment que le Seigneur tient ses promesses. » À chaque fois que quelqu'un déclare sa foi, raconte son histoire, il permet aux personnes qui ne connaissent pas Dieu de se positionner, pour le pire parfois, mais surtout pour le meilleur, pour qu'ils reconnaissent que Dieu est le plus fort et qu'ils se repentent. Pour notre histoire, celle de Josué, la volonté de Dieu et la déclaration de foi va permettre l'inclusion dans l'héritage. Et c'est notre troisième partie. Mais je vais boire. Il faut remarquer, et je suis sûre que vous l'avez fait, que l'entrée dans l'héritage, l'entrée dans le peuple, se fait de manière très facile et très douce pour Rab. Bon, il y a quand même une guerre, mais ça se fait de façon assez douce pour Rab et de façon beaucoup plus compliquée pour les Gabaonites. Pourquoi ? Un peu rapidement, on pourrait dire bah, parce que Rab, elle a rien fait de mal. Elle a menti, mais elle a menti aux méchants, donc c'est moins grave. Alors que les Gabaonites, eux, ils ont menti au peuple, donc c'est plus grave. C'est peut-être pas entièrement faux, mais le texte, ce sur quoi le texte insiste, c'est sur la responsabilité des Israélites. Pour Rahab, les espions sont courageux et conséquents. Ils s'engagent auprès de Rahab avec leur vie. « Que nous mourions, leur dit-il, bref, je ne sais pas comment formuler ma phrase, ils disent à Rahab que nous mourions si on te fait du mal, si le peuple d'Israël te font du mal. » Ils s'engagent avec leur vie. Et Josué fait une promesse, il la tient, et les espions traversent une ville en flammes pour aller sauver Rahab, un peu comme le groupe qui a gagné lors du premier jeu. Ce sont des héros. Ils sont conséquents, ils sont courageux, ils s'engagent avec leur vie, ils tiennent leurs promesses. Mais chez les Gabaonites, on l'a vu, les Israélites sont à côté de la plaque. Ils ne consultent pas l'Éternel, ils ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Et surtout, une fois la manipulation révélée, ils veulent tuer les Gabaonites. Alors franchement, moi qui ai lu plusieurs fois le livre de Josué, je ne peux que m'étonner de leur zèle à vouloir exterminer un peuple repentant, alors qu'ils s'accommoderont très bien ensuite d'autres peuples, pas du tout repentants, et avec qui ils vont faire des alliances et avec qui ils vont mélanger un petit peu leur foi. Bonjour l'hypocrisie. Quand on a un peuple où en fait c'était facile de les tuer, parce qu'ils étaient là en disant « Faites ce que vous voulez de nous », ah bah là tout d'un coup on veut les exterminer, mais quand c'est un peuple non repentant et qu'il faut que ça fasse un peu des efforts et qu'on fasse la guerre, là on en reparlera, il n'y a plus personne. Heureusement, nous avons Josué, courageux et conséquent, qui protège leur vie et accomplit la seule fois ce que son nom veut dire, le texte nous dit, et ce jour-là, Josué sauva les Gabaonites. Dieu sauve. Rab est entré dans l'héritage voulu et accompagné par le peuple. Les Gabaonites sont entrés malgré le peuple. J'aimerais bien pouvoir dire que ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus que les chrétiens soient des obstacles à l'entrée des gens dans le royaume de Dieu à cause de leur bêtise, à cause de leur hypocrisie. J'aimerais vraiment pouvoir le dire. Voilà. Cependant, la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Et les textes nous disent qu'aujourd'hui encore, à l'époque où Josué a été écrit, Rahab et les Gabaonites sont au milieu du peuple. Aujourd'hui encore, ils participent à la vie du peuple. Parce que si l'inclusion dans le peuple se fait par une promesse tenue de la part de Dieu, déclaration de foi de la part des personnes intégrées, elle se fait aussi par la participation à la vie du peuple. Et dans ce texte, nous voyons Rahab et les Gabaonites, chacun d'une façon différente, participer à la vie et au cheminement spirituel du peuple. Rahab y participe en revivant, peut-être les plus chevronnés d'entre vous l'auront remarqué, en revivant... oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? Attendez. Ah bah ça rebug, c'est pas grave. Rahab y participe en revivant à son échelle les événements de la Pâque. Est-ce que vous aviez remarqué ça ? Toute la famille enfermée dans une maison qui ne sort pas, le cordon rouge à la fenêtre qui rappelle quand même beaucoup la marque rouge au-dessus des linteaux, tout meurt autour d'eux sauf eux. Ils revivent l'événement fondateur du peuple et ainsi entrent dans le peuple. Et Rahab participera aussi, et pas une moindre participation dans la vie du peuple, en ayant des enfants, d'où sortira finalement le Messie, Jésus. Les Gabaonites, eux, vont devenir les serviteurs du temple. Ils vont par leur service permettre que le service sacrificiel se perpétue, que Dieu soit adoré et que les péchés soient pardonnés. Ils sont au cœur de ce qui fonde même l'identité du peuple. Leur service va permettre à ce que le culte puisse continuer de génération en génération. Cela rappelle, et on nous le rappellera encore à d'autres occasions d'ici la fin de la semaine, que le salut, c'est pas juste un truc individuel. Quand on est sauvé, on intègre la famille de Dieu. Cela nous donne des privilèges de fou, mais aussi des responsabilités, le service. Et c'est pour ça que la mauvaise conduite des chrétiens est tellement problématique. Parce que quand un chrétien est bienveillant envers quelqu'un, quand il est courageux, cohérent, intègre, il donne à cette personne envie d'être son ami, envie de faire partie de sa tribu, d'être son pote, d'être son frère et de s'intéresser à sa foi. Et il montre que son Dieu est bienveillant et il donne à la personne aussi d'avoir une relation avec ce Dieu bienveillant, cohérent, courageux, etc., etc. Ça a un bénéfice à la fois vertical entre cette personne et Dieu, qui a une bonne image de Dieu grâce à la bonne attitude du chrétien, mais aussi horizontal entre toi et moi, on pourrait faire partie de la même tribu, de la même famille si tu deviens chrétien. Du coup, imaginez les conséquences si le même chrétien a une attitude hypocrite, méprisante, malvenue envers quelqu'un. Est-ce que vous êtes prêt à tout pour permettre l'inclusion dans l'héritage du plus grand nombre ? Conclusion.
Est-ce que je vais réussir ? Non, je vais pas réussir.
Conclusion. Ce que Dieu veut et ce que nous voulons. Le cas d'Rahab et des Gabaonites nous rappelle que la grâce de Dieu dépasse les limites du peuple d'Israël. Elle est pour toutes les nations. Ce que Dieu veut, c'est faire grâce. Ce que Dieu veut, c'est que des personnes de tout horizon et le plus de personnes possible entrent dans son alliance et ainsi possèdent l'héritage. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et nous, qu'est-ce que nous voulons ? Pour nous-mêmes déjà, est-ce que nous voulons vraiment de cet héritage ? La plupart d'entre vous, si vous êtes là, c'est que vous êtes chrétien. Mais franchement, je vais vous le dire, très franchement, il y a chrétien et chrétien. Il y a chrétien et chrétien. Est-ce que on est prêt à tout pour vivre la plénitude de la vie que Dieu vous offre en Christ ? Est-ce que vous êtes prêt à reconnaître que Dieu est au-dessus de tout et de tous les domaines de votre vie? Au-dessus de vos plans de carrière, au-dessus de vos affaires de cœur, au-dessus de votre envie d'être admiré, au-dessus de votre gestion de la sexualité. Est-ce que vous êtes prêt à reconnaître que Dieu est au-dessus de tout? Et est-ce que vous êtes prêt à faire tous les efforts et les sacrifices nécessaires pour entrer pleinement dans cet héritage que Dieu nous offre en Christ? Ça, c'est pour nous. Mais pour les autres aussi, est-ce que nous voulons vraiment que notre entourage rentre dans cet héritage ? Est-ce qu'on est prêt à tout pour qu'ils y aient accès ? Est-ce qu'on est prêt à être courageux ? Est-ce qu'on est prêt à supporter un refus méprisant quand on invite quelqu'un au GBU ? Est-ce qu'on est prêt à supporter une insulte quand on tient un stand ? Est-ce qu'on est prêt à supporter une amitié qui se termine ? Est-ce qu'on est prêt à être conséquent, à continuer à suivre nos conséquences qui s'approchent de la foi et pas juste les laisser tomber parce qu'on a trop de trucs à faire dans la vie et que j'ai mon groupe de jeunes, etc., etc. Est-ce que vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour faire tomber le plus d'obstacles entre vos amis et Dieu ? Je sais que ça fait beaucoup de questions et je sais qu'elles sont dures. Elles sont dures pour moi, donc je vois pourquoi elles seraient faciles pour vous, ce serait pas juste. Et je sais aussi que vous avez peut-être pas toutes les réponses maintenant. Mais gardez ces questions en tête et priez que Dieu mette en vous la même détermination qu'il a mis en Rahab et en les deux espions, dans les Gabaonites et en Josué. Que le Seigneur fasse de nous des personnes prêtes à tout pour participer à son plan pour le monde.